magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans la Tête au Carré. Voici tout de suite le sommaire de l'émission réalisée par Violaine Ballet. Les effets bénéfiques du massage décryptés par la science pour la première fois. Des chercheurs ont compris les bases biologiques du massage. On en parle dans la revue de presse. Le jeûne thérapeutique, c'est donc le dossier cet après-midi de l'émission. Jeudi soir, Arte diffuse un documentaire sur les perspectives très surprenantes du jeûne dans le traitement de nombreuses maladies. Sujet d'autant plus étonnant que des études scientifiques montrent clairement comment agit la restriction calorique. Pour en parler, je suis avec Sylvie Gillemand, Thierry de Lestrade, les deux auteurs et réalisateurs du documentaire, ainsi qu'avec Yvan Lemao, directeur de recherche au CNRS de Strasbourg, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de pharmacie. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Très heureux de vous accueillir pour discuter donc ensemble de cette enquête scientifique que vous avez menée sur le jeûne. On va se retrouver dans quelques minutes avec les auditeurs qui ont déjà des courriels et des questions à vous poser. Ils nous rejoignent en direct avec les messages sur franceinter.fr. Et donc, on se retrouve d'ici quelques minutes. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons, comme chaque mardi, la chronique de Vincent Olivier, qui va nous parler des difficultés rencontrées au quotidien par les malades du cancer. Voilà pour le menu de cette émission, qui a été préparé par Chantal Lemontagnier, avec Lucie Sarfati, Anne-Cécile Perrin et Hugo Combes.
Revue de presse. La revue de presse, 2S. Des sciences.
Le massage décrypté par la science. Comment une pression physique sur la peau peut-elle avoir un effet aussi bénéfique sur nos muscles ? Science et vie, ce mois-ci, sous la plume de Coralie Hancock, raconte que grâce aux derniers outils d'exploration biologique, le chercheur canadien Mark Tarnopolsky vient d'éclairer le subtil mécanisme par lequel une pression physique peut avoir une portée biologique. Pour tenter de saisir ce mystère vieux de plusieurs siècles, les chercheurs ont recruté 11 volontaires qu'ils ont soumis à un exercice physique intense. Ils ont ensuite pratiqué une biopsie musculaire sur leurs jambes, dont l'une avait été massée 10 minutes après l'exercice. Résultat, dans les cellules de la jambe massée, les molécules inflammatoires étaient beaucoup moins concentrées, comme si un médicament avait agi localement. Que s'est-il passé ? L'article explique que sous l'influence de la pression exercée par les mains du masseur, la structure chimique de petites protéines nommées kinases est modifiée. À l'intérieur de l'ADN, la machinerie cellulaire se met alors en marche et cette modification chimique constitue la première étape d'une longue cascade d'événements biologiques qui aboutissent à la modification de l'expression de 9 gènes différents. Autrement dit, le massage active directement les gènes de nos cellules musculaires et parmi ces gènes, la nucléoporine 88 est particulièrement intéressant puisqu'il est impliqué dans la diminution des mécanismes d'inflammation. Selon Science et Vie, ces résultats pourraient permettre d'optimiser par des mesures objectives le rythme et l'intensité des pressions à exercer et l'art des massages pourrait alors être élevé au rang de science. Un cinéaste au plus profond des abysses, le Parisien aujourd'hui en France nous raconte l'odyssée sous les mers que vient d'effectuer James Cameron à bord de Torpille Verticale, un mini sous-marin de 7 mètres de long. Le réalisateur de Titanic et d'Abyss a plongé donc hier en sous-marin à 11 km de profondeur, atteignant le point le plus profond de notre planète. Situé dans la fosse des Mariannes, dans le Pacifique, ce lieu est une sorte d'immense ravin sous-marin qui pourrait engloutir à lui seul à la fois le Mont Blanc et le Kilimandjaro. James Cameron a mis 2h30 pour en atteindre le fond, pilotant seul un bathyscaphe équipé de puissants projecteurs et de caméras. C'est le premier donc à descendre en solitaire à une telle profondeur, écrit Vincent Montgaillard. L'article raconte qu'en 1960, l'océano-suisse Jacques Picard et le lieutenant américain de l'US Navy Don Walsh s'étaient déjà posés à une telle profondeur, mais seulement une vingtaine de minutes. Cette fois, l'escale a duré 2h30 grâce à des robots fixés au sous-marin. Des échantillons ont pu être collectés à des fins de recherche en biologie et en géologie marine. À de telles profondeurs, note le Parisien, les fonds sont moins connus que la surface de Mars. Il faut imaginer une plaine abyssale recouverte de sable, de boue, de vases. On y trouve aussi des amphipodes, ces crustacés qui ressemblent à des crevettes. La température de l'eau des abysses est plutôt frisquette, entre 2 et 4 degrés. Et la pression y est 1000 fois supérieure à celle que l'on subit à l'air libre. Les images de l'expédition de James Cameron feront l'objet d'un documentaire en 3D produit par National Geographic. Et puis enfin, si vous habitez du côté de Dijon, notez que ce soir, l'Experimentarium organise une soirée science et fiction. Ce programme proposé par l'Université de Bourgogne a pour objectif de lancer de nouvelles formes de dialogue entre les chercheurs et le grand public. Dans le cadre de cette soirée, des scientifiques s'appuieront sur des extraits de films pour présenter leurs recherches et attirer l'attention sur certaines idées véhiculées par le cinéma. On y parlera de la théorie de l'évolution dans les films de science-fiction, des variations climatiques dans les films catastrophes ou encore de la pertinence des reconstitutions du passé. À noter également dans vos agendas un autre événement organisé dimanche après-midi. Le public sera invité à démêler le vrai du faux et à réfléchir aux implications de la vérité scientifique avec le biologiste Jacques Testard. Ça se passe donc à Dijon. Toutes les informations et le programme de ces événements sont en ligne sur le site de la Tête au Carré.
La Tête, au Carré.
Le jeune, c'est le dossier donc de l'émission dans un instant, juste après Carmen Maria Vega. Vos messages sur franceinter.fr.
Ne rien remettre à demain, être sur le bon chemin, jamais ne douter de rien. Toujours avoir un avis, des nouilles ou des spaghettis, des crevettes ou des sushis. Sans équivoque, savoir la vie des enrocs, coller avec son époque, créer son réseau social, nouveaux amis, c'est de la balle, les photos du Sénégal.
Lundi au vendredi à 14h.
Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux.
Dans la Tête au Carré.
Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux.
Sur France Inter.
Tu ne pourrais pas comprendre, tu aimes trop les sciences exactes.
Le jeûne pourrait-il devenir une nouvelle thérapie? C'est la question du dossier de l'émission cet après-midi à l'occasion de la diffusion jeudi soir à 22h35 d'un documentaire sur Arte signé Sylvie Gillemand, Thierry de Lestrade. Ils sont nos invités cet après-midi avec Yvan Lemao, directeur de recherche au CNRS de Strasbourg, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de pharmacie. Vos messages arrivent en direct sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Sylvie Gillemand, Thierry de Lestrade, racontez-nous d'abord comment vous avez été amené à vous intéresser à cette pratique du jeûne et surtout donc à découvrir que la science avait maintenant des éléments importants à apporter sur la question. Comment a démarré votre histoire ?
Ce film est né à la fois d'un questionnement et d'une rencontre. Le questionnement, il est venu de notre précédent film scientifique qui s'appelait « Mâles en péril ». Mmh. Et ce film se terminait sur un constat effrayant, c'est-à-dire qu'il montrait que des produits chimiques imitent les hormones et peuvent bouleverser le fonctionnement du corps.
C'était sur la fertilité masculine en particulier.
Et les perturbateurs endocriniens.
Absolument.
Mâles en péril.
Oui. Et ce film, donc nous, on posait. Ce film avait deux vertus. Enfin, pour nous, il devait poser le débat politique et inciter les politiques à prendre des mesures pour interdire ces produits, ce qui a été fait pour le bisphénol A, par exemple, dans le biberon. Mmh. Mais nous renvoyait à nous, individuellement, à une forme d'impuissance.
Alors, comment le jeûne est arrivé là-dedans ?
C'est donc on peut toujours avoir des stratégies d'évitement, comment on se protège ou pas des molécules. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on savait qu'il y avait probablement dans le corps des mécanismes de défense, mais lesquels ? Comment est-ce qu'on pouvait les mobiliser ? Qu'est-ce qui existait comme pratique ? Et il y a eu la rencontre avec Yvon Lemao. C'est-à-dire qu'on avait été invité à présenter le film. Et puis, Yvon Lemao était invité aussi. Et il a parlé du jeûne chez les manchots. Et puis, à partir de là, on a découvert un monde complètement inconnu. On y est allé avec beaucoup de prudence. Parce que bon...
Oui, aucun de nous n'avait jeûné. On ne connaissait personne qui avait jeûné. On n'était pas du tout dans cette démarche.
Ouais. Voilà. Alors, Yvon Lemao, justement, en tant que scientifique, comment est-ce que vous avez étudié, vous, cette question du jeûne, alors, auparavant ?
Bien, ça remonte à 40 ans. Parce qu'il y a exactement 40 ans, j'hivernais à l'époque de Paul-Émile Victor en Antarctique. Et j'étais là-bas parce que j'étudiais le manchot empereur. C'était la première fois où on m'avait confié l'étude de la manière dont l'animal se défend contre le froid. En fait, on venait seulement de découvrir son cycle reproducteur une dizaine d'années plus tôt. Et donc, étant là-bas pour étudier comment il lutte contre le froid, le sujet de la marche de l'empereur, j'ai tout de suite réalisé qu'il était parfaitement adapté contre le froid. Et en fait, ce qui faisait son caractère tout à fait extraordinaire, c'est le fait qu'il jeûnait spontanément, que le mâle jeûne la moitié de l'année, dont un jeûne de 4 mois, 120 jours, pour un animal de 40 kilos, c'est tout à fait étonnant, puisqu'on parle de 40 jours chez l'homme, qui a pourtant des réserves plus importantes, et sans danger. On n'a jamais retrouvé un manchot empereur sur la glace, alors qu'il arrive régulièrement, que le conjoint ne vient pas relever à temps. Et donc, là, je me suis dit, cet animal est exceptionnel. Il a probablement des mécanismes d'adaptation au jeûne que les autres animaux et que l'homme n'ont pas. Mmh. Aujourd'hui, je sais que c'est faux.
Ouais. Et ce type de recherche, est-ce que c'est pris au sérieux dans la communauté scientifique, justement, quand on travaille sur le jeûne ?
Eh bien, on a progressé très vite. On s'est rendu compte que finalement, en corrigeant par la taille, bien sûr, le rat avait les mêmes mécanismes, la même efficacité qu'entre... un hérisson, un hibernant, un oiseau migrateur, le manchot empereur, les mécanismes étaient fondamentalement les mêmes. Et ça a changé complètement ma vision du jeûne. Et je me suis dit, le jeûne a existé dès qu'il y a eu des animaux. C'est un des premiers mécanismes qui est apparu sur Terre.
Ouais. Alors là, justement, c'était sur le manchot empereur, en l'occurrence. Donc, quand vous avez pensé à ce film sur le jeûne, vous avez dit, il y a des pistes à explorer, peut-être pour trouver des choses autour de l'humain aussi ?
Mais oui, bon, déjà, Yvon Lemao nous a dit aussi qu'il avait pratiqué lui-même le jeûne après en Allemagne, on en parlera après. Mais c'est vrai que sa question de départ, qu'est-ce que cet animal a que les autres n'ont pas ? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? Et bon, déjà, c'était une question intéressante. Et la réponse, c'est, mais finalement, il n'a rien, comme il vient de le dire, il n'a rien d'extraordinaire. C'est la capacité qu'il a développée. Nous, on l'a aussi. À partir de là, ça ouvre un monde. Enfin, ça veut dire que nous aussi, on est armés pour ça. Et là, on a découvert avec Yvon Lemao que non seulement on a tous cette capacité, mais que c'est peut-être cette capacité à vivre de nos propres réserves qui a permis à l'espèce humaine de survivre. C'est-à-dire, il n'y a pas toujours eu un frigo plein, comme dit un des médecins allemands dans le film, qu'on ouvre 3 fois par jour. Et voilà. Donc, si à un moment donné, on a pu survivre, c'est parce qu'on a pu vivre de nos réserves et ça ouvre un monde. Ça posait dans le film, il y a à la fois la question des limites du jeûne, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Combien de temps un être humain peut jeûner sans danger ? Et puis après, il y a la question des effets thérapeutiques du jeûne.
Ouais.
Oui, des effets thérapeutiques. Effectivement, nous, on est passé, les animaux, ça nous intéresse beaucoup, et pour justement, pour montrer les limites du jeûne. Mais est-ce que, la question qu'on s'est posée, nous, ensuite, c'est est-ce qu'il y a des effets thérapeutiques? Est-ce qu'ils ont été mesurés? Et on s'est aperçu qu'il y avait très peu d'études faites en Occident là-dessus. Pendant très longtemps, on va voir avec Longo aux États-Unis que récemment, ça a recommencé, mais très peu d'études. Et en faisant, en continuant notre enquête, on a trouvé que, en revanche, en Union soviétique, pendant 40 ans, ils avaient étudié le jeûne,
voilà, mais
sur
cette histoire,
dizaines de milliers de malades.
Puisque vous ouvrez le film, justement, sur la Russie, on va en parler dans un instant. Yvan Lemao, c'est difficile d'avoir des financements pour faire des recherches sur le jeûne. Ça intéresse qui? Parce qu'évidemment, ça n'intéresse pas l'industrie. Il n'y a pas de profit à tirer véritablement de cette pratique. Et du côté de la recherche publique, est-ce qu'on arrive à avoir des crédits ou pas?
Très vite, on a eu des problèmes, alors qu'on a progressé extrêmement rapidement à partir de 1974, 80, on a vraiment progressé dans la connaissance. Surtout, ce que nous avons apporté grâce à ce jeûne spontané, c'est le fait que l'animal économise, comme l'homme, et qu'à un moment donné, parce que justement cet animal jeûne spontanément, on peut étudier ce qui fait qu'à un moment donné, il cesse de jeûner. Ce qu'on ne pourrait pas faire en mettant un animal expérimentalement à jeûner au laboratoire. Et donc, en mimant après ce que fait l'animal, on a découvert que tout d'un coup, il y a un changement de comportement complet avec un signal d'urgence qui se traduit par des molécules qui, chez l'animal, provoquent... Il a faim à ce moment-là. Et donc, on a compris que l'organisme est adapté non seulement au jeûne, mais dans la mesure où, à un moment donné, alors qu'il a encore suffisamment de réserves, comme sur votre voiture, vous pouvez encore faire 50 km dès qu'un signal lumineux s'allume, eh bien, alors qu'il y a encore 20% des réserves permettant à mon champreur de marcher sur la banquise, il est induit par un mécanisme qu'on a commencé à étudier. Il est induit à partir, il va marcher pendant 12 jours jusqu'à trouver la nourriture.
Il y a ce courriel de Vincent sur franceinter.fr, il nous dit ceci: toutes les grandes religions, à ma connaissance, comportent dans leur commandement une période de jeûne. Nos ancêtres et leur savoir expérimental passé depuis plusieurs milliers de générations, avaient-ils pressenti, demande Vincent, un intérêt pour cette pratique, ou est-ce que ça n'est qu'un pur hasard?
Mais justement, dans la Bible, quand Jésus est allé jeûner dans le désert, il est écrit « et le 40e jour, il eut faim ». Et c'est drôle parce que ce chiffre 40, on le retrouve aussi dans les études scientifiques. C'est un chiffre qui revient régulièrement. Il semble être, alors ça dépend évidemment chez chaque être humain de ses réserves disponibles. Quelqu'un qui a très peu de réserves pourra jeûner moins longtemps que 40 jours. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de réserves pourra jeûner beaucoup plus longtemps que 40 jours. Mais 40, ça semble être le chiffre à peu près... sur lequel les scientifiques sont tous d'accord.
Et ce chiffre veut dire quoi exactement, alors Yvan Lemao? C'est une sorte de limite
Ce chiffre, il correspond à ce que je viens de décrire chez l'animal, c'est-à-dire une période durant laquelle l'organisme mobilise ses réserves de graisse. Et lorsqu'à peu près 80% des réserves de graisse ont été épuisées, il en reste suffisamment, mais à ce moment-là, ça n'a pas été montré chez l'homme, mais ça correspondrait très bien à ce que nous avons très très bien décrit chez l'animal, c'est-à-dire qu'il y a une molécule dans son cerveau qui est connue pour donner faim.
Ouais.
C'est-à-dire peut-être qu'il faut expliquer qu'il y a trois réserves. C'est-à-dire que le corps humain, il a trois réserves. Il y a du sucre, il y a des lipides et il y a des protéines. Et nous, ce qu'on a découvert, on ne savait pas que la machinerie humaine était suffisamment bien outillée pour un moment donné, c'est-à-dire on a trois carburants, le cerveau, il a absolument besoin de sucre pour fonctionner. Or, au bout de 24 heures, il n'y en a plus. Et que fait le corps? Il s'adapte.
Donc quand il n'y a plus de glucose, il va chercher ailleurs, c'est ça?
Oui, il va chercher. Donc on a des lipides et des protéines qui restent. Et les protéines, ce sont quoi? C'est le muscle. Et ce sont les muscles squelettiques et aussi le muscle cardiaque. Et s'il tape trop fort dans les protéines, il peut attaquer donc le cœur et ça peut être très dangereux. Et ce qu'a découvert par exemple Yvan Lemao, tout ce qui s'intéresse au jeûne animal, c'est que au fur et à mesure que le jeûne avance, en fait, le corps va se nourrir à partir des lipides, va privilégier les lipides, va transformer les lipides dans une forme de glucose qu'on appelle les corps cétoniques pour épargner les protéines et rendre le jeûne peu dangereux ou enfin, en tout cas tout à fait acceptable.
Et ça, Yvan Lemao, ça fonctionne chez l'animal, donc le manchot, la souris, on a pu observer exactement le même mécanisme.
Le rat, chez les oiseaux, on l'a découvert sur des hibernants. Et ce qui est assez extraordinaire, vous voyez, c'est qu'un un hérisson qui, en hibernation, réduit considérablement sa dépense énergétique grâce à la baisse de sa température, comme le fait une marmotte, il aura la même proportion de sa dépense d'énergie qui dérive des protéines, parce que quand on dit épargner, il en reste toujours un peu. On retrouve un même pourcentage minimal qui est de l'ordre de 4%. C'est-à-dire qu'il y a toujours à peu près 4% de la dépense d'énergie. Alors, sur un temps très long, évidemment, ça va représenter une perte qui n'est pas négligeable, dans la mesure où on sait que la mort survient lorsque 40 ou 50% des muscles ont disparu. Hein, c'est un chiffre qui revient, mais un manchot empereur n'atteint ce stade qu'après une centaine de jours.
Alors, est-ce qu'il y a eu des études faites sur les primates aussi? Parce qu'évidemment, il faut s'approcher de l'humain petit à petit pour savoir si on peut transposer ces observations à l'homme. Est-ce que sur les singes, on a observé le même mécanisme ou pas?
Non, il n'y a pas eu de jeûne prolongé, à ma connaissance, sur des primates, mais ça a été fait chez l'homme.
Il y a de la restriction calorique et on attend les conclusions sur... Elles sont pas... Sur les maladies liées au vieillissement, il y en a moins. Après, sur la longévité, il faut attendre.
Il y a des études en cours sur les primates avec une restriction calorique. Et qui montrent déjà une augmentation de la longévité, en tout cas.
Alors, pour ce film, vous avez enquêté dans plusieurs pays. On le disait tout à l'heure, donc vous avez démarré par la Russie. Hein, vous nous emmenez en Allemagne, aux États-Unis. Et c'est vrai que les Russes, visiblement, ont un recul très important sur la question. Et vous expliquez que le jeûne serait même devenu un élément central de la politique de santé publique.
Alors, pas dans toute la Russie.
Partie où vous avez filmé.
Voilà, non, c'est-à-dire qu'on a filmé à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Bouriassi, en Sibérie, au bord du lac Baïkal. Où là, effectivement, aujourd'hui, dans cette région très éloignée de tout et très très pauvre, aux ressources très limitées, le ministre de la Santé, qui est lui-même médecin, porte le jeûne et en fait un élément central de la politique de santé publique. Donc, une centaine de médecins en Bouriassi sont formés à la pratique du jeûne. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de se mettre à... Enfin, il faut être formé. N'importe quel médecin ne peut pas s'improviser superviseur de gens qui vont jeûner. Quoi. Justement, il faut connaître ce qui se passe dans le corps. Voilà. Donc, en Bouriassi, oui, c'est une politique de santé publique. Dans le reste de la Russie, non. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une longue pratique. Il y a eu une longue pratique, mais à Moscou, à Saint-Pétersbourg, la perestroïka est arrivée aussi, et les médicaments, tout le système de santé a été désorganisé, et aujourd'hui, c'est devenu payant.
Alors, ça fait combien de temps qu'ils s'intéressent à la question du jeûne dans cette partie-là de la Russie ?
Ça a commencé en Russie, ça a commencé à Moscou, en fait, à s'intéresser aux jeunes. Ils ont fait à peu près 40 ans d'études. Donc ça a commencé au début des années 50 jusqu'en 1990. Et ça s'est justement terminé avec la perestroïka. En 1950, ça a démarré avec un médecin psychiatre. C'est ça qui est étonnant aussi. Il s'appelait Yuri Nikolaev. Nikolaev travaillait dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital Korsakov à Moscou. Et il observait souvent, parmi ses patients schizophrènes et tout, des gens qui refusaient toute nourriture. La politique de l'établissement, enfin de tous les établissements psychiatriques... C'était de les forcer à manger. Et lui, il appelait ça à force du gavage. Et un jour, il a décidé de ne pas forcer un patient à manger. Il lui a amené à côté des fruits, des raisins et un verre d'eau. Et tu manges si tu veux, tu ne manges pas si tu ne veux pas manger. Et il a observé.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Et le patient donc n'a pas mangé. Il était catatonique, donc replié sur lui-même, rien fermé, complètement fermé. Au bout de 5 jours, il a commencé à s'ouvrir. Au bout de 10 jours, il a commencé à parler. Et au bout de 20 jours, il a recommencé à s'alimenter, à prendre un fruit à côté de la tête, et à retrouver une vie sociale au bout de 30 jours.
Donc ça, c'était le démarrage des études et des observations sur le jeûne dans cette...
En Russie, même début, en 1900, il y a un dénommé Pachoutine qui s'était aussi lancé dans des études. Mais c'est vrai que le pionnier des études sur le jeûne en Russie, c'est vraiment Nikolaïev, donc psychiatre, qui a fait, à partir de cette première guérison un peu spectaculaire, a fait jeûner des tas de patients en psychiatrie, donc des patients atteints de schizophrénie, névrose, dépression, phobie...
Il y a plus de 10 000 cas répertoriés.
Il y a toute une littérature en fait.
Il les faisait jeûner 25 à 30 jours, parfois même 40, uniquement à l'eau. Parce que des questions qu'on nous pose toujours, mais qu'est-ce qu'on mange quand on jeûne? Rien. Normalement, c'est rien.
Donc, on boit
beaucoup d'eau.
Pas de la vodka, évidemment.
Alors en Russie, on boit de l'eau. En Allemagne, c'est des jus de légumes ou de fruits. Mais lui, en tout cas, donc c'était des jeûnes assez longs. Mais il ne faut pas croire que toute la Russie s'est embarquée derrière lui en disant c'est formidable. Il a fait front aussi. Il y avait beaucoup de sceptiques. Et son fils, qu'on a interviewé dans le film, nous disait il y avait des opposants très forts chez les médecins, et il dit, il a cette belle expression, il faut mettre sa tête à l'envers pour imaginer que le jeûne, que se priver de nourriture, ça puisse rendre plus fort, et c'est encore plus difficile pour un médecin.
Et ce que vous montrez, c'est qu'il y a toute une littérature scientifique qui existe et qui n'a jamais été traduite. Hein.
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir des travaux de Nikolaïev, donc dans, parce que Nikolaïev s'est aperçu qu'en essayant de soigner les gens des maladies psychiques, leur corps, les maladies somatiques aussi, leur état s'améliorait. Et donc, il a demandé à ce que des études soient faites. Et c'est là où l'Union soviétique, c'était peut-être la force du système, au niveau de l'État, on a décidé de faire des études à une très large échelle. Donc, on a demandé à des médecins de s'intéresser aux jeunes. Ça a été fait à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kiev, à Minsk, à Rostov, à Saint-Pétersbourg, c'était sur les maladies, surtout sur les maladies, par exemple, asthmatiques, à Rostov, sur les rhumatismes, etc. Et ça a été fait sur des milliers de patients qui ont été suivis sur de longues années.
Alors, il y a toujours des patients qui bénéficient aujourd'hui en Russie de ces jeunes. On va en parler dans un instant. Il y a ce courrier de Patrick qui nous dit ceci. J'ai aujourd'hui 53 ans. J'ai pratiqué le jeûne 2 fois 3 jours, 1 fois 5 jours, après avoir effectué plusieurs monodiètes de fruits de quelques jours, le tout sur une période de 5 à 6 mois. Mon objectif était simplement de me détoxiner. Je suis convaincu que cela ne peut qu'être bénéfique pour chaque être humain, surtout à une époque où les produits industriels que nous consommons en grande quantité ne peuvent que contribuer à la dégradation de notre santé. Yvan Le Mao, un commentaire sur ce courriel ?
Oui, disons qu'en tant que scientifique, bien sûr, j'ai les mêmes idées que le jeûne est bénéfique. J'ai un passé aussi de 8 ans de fac de médecine. Donc ça compte, ça sensibilise. Et à partir de cela, je trouve que le fait que les animaux, jusqu'à ce signal qui va les faire se ralimenter avant qu'il soit trop tard, se déclenche, ça a l'air vraiment de ne poser aucun problème. Si on ajoute toutes ces études qui montrent qu'une restriction calorique augmente la longévité, on a une autre vision du jeûne et de la restriction alimentaire.
On va parler dans un instant d'une publication d'un biologiste américain qui s'appelle Walter Longo et qui concerne l'homme directement. Enfin, même s'il a travaillé sur des souris, il a observé la façon dont le jeûne pouvait agir au moment d'une chimiothérapie. On en discute dans un instant. Les messages, franceinter.fr.
Tu veux pas parler, tu veux pas que je le dise. Tout reste encore indéterminé. Ah, mais rappelle-toi, Barbara, tu ne t'appelles pas comme ça. Ça peut servir pour les souvenirs, mais elle veut pas. Elle veut même pas qu'on la voie. Mais y'a que toi là. Où veux-tu que je regarde? Où veux-tu que je regarde? Elle a changé d'homme. Elle étend ses jambes. Même pas nager.
On ira dans tous les déserts. On ira danser sous la mer. Et on verra pourrir nos yeux tendres sous la lumière blanche. Où veux-tu que je regarde? Où veux-tu que je regarde? Où veux-tu que je regarde? Où veux-tu que je regarde?
Cette reprise de Noir Désir, où veux-tu que je regarde avec une nouvelle vague. Émilie Loiseau dans La Tête au Carré. Nous parlons du jeûne à l'occasion d'un documentaire à voir jeudi soir sur Arte. Ce sera à 22h35, Le Jeûne, une nouvelle thérapie, réalisé par Sylvie Gillemand et Thierry de Lestrade, qui sont nos invités, avec également Yvon Lemao, directeur de recherche au CNRS de Strasbourg. On parlait donc du départ de cette enquête scientifique que vous avez menée d'abord en Russie. Dans ce lieu que vous avez filmé, on voit donc les patients faire des cures de jeûne. Quelles sont les maladies qui sont traitées exactement à partir du jeûne?
Oui, en fait, les Russes ont établi des listes très précises d'indications et de contre-indications au jeûne. Donc, parmi les indications, il y a toutes les pathologies des bronches, cardiovasculaires, l'estomac, l'intestin, pathologies articulaires, problèmes de peau. Et parmi les contre-indications, il y a le cancer, la tuberculose, le diabète de type 1, l'hépatite chronique et bien sûr l'anorexie, tout ce qui est troubles alimentaires.
Quel résultat globalement, donc pour ces patients qui pratiquent le jeûne sur ce type de pathologie?
Par exemple, sur l'asthme bronchique, à Saint-Pétersbourg, le professeur Ouzinine a fait sa thèse de doctorat sur 1000 patients et il note, après 7 ans, que l'amélioration perdure pour 50% des malades. Et pour 10 à 15% d'entre eux, ils sont complètement guéris. De l'asthme bronchique, donc une maladie qu'on dit chronique et avec laquelle on est condamné à vivre avec des béquilles chimiques.
Mais ça, ce sont des gens qui jeûnent combien de temps par an?
Alors ça dépend. À chaque fois, ça dépend depuis combien de temps la maladie est installée et de l'âge du patient aussi. Mais c'est des jeûnes de 10 à 15 jours et il faut parfois plusieurs cures de jeûne pour régler le problème.
Thierry de Lestrade.
Donc, ce qui est intéressant dans les indications fournies par les Russes, ce sont des maladies chroniques que aujourd'hui notre médecine occidentale n'arrive pas à guérir. En fait, on vit avec. Il y a l'hypertension, par exemple, aussi. On vit avec une pilule. Si vous êtes hypertendu, vous avez une pilule à prendre tous les jours. Le jeûne est très efficace pour ce genre de pathologie. Et c'est ça qui est intéressant, même si on pense au niveau de politique de santé publique, c'est peut-être de remplacer petit à petit les médicaments, mais on peut rêver. Oui, petit.
Alors, Yvon Lemao, justement.
À Goriatchinsk, à côté du lac Baïkal, les gens arrivent donc avec une pathologie et ils sont suivis par des médecins. Ça, il faut le répéter, c'est très surveillé. Mais au bout de 3 jours de jeûne, ils arrêtent toutes leurs pilules.
Alors justement, on va entendre le témoignage d'une femme qui est suisse, qui s'appelle Pauline Valiquet et qui vient régulièrement dans une clinique allemande. Elle va nous parler justement de son traitement et des antécédents de ses pathologies avec ensuite la pratique du jeûne.
J'ai eu un moment de désespoir où je me suis dit « mais je suis encore beaucoup trop jeune pour être grabataire, mais que va être ma vie, d'autant plus que je vis seule ?» Je suis arrivée au mois de février absolument épuisée de douleurs, de médicaments aussi. Comme j'avais pris des antirhumatismaux, de la cortisone, enfin tout ce qu'on donne normalement. Je me sentais vraiment épuisée. Et ce jeûne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu de m'épuiser encore plus, eh bien, j'ai eu l'impression qu'en me purifiant tout à fait, mon corps a retrouvé le ressort nécessaire pour rebondir. Et bien sûr, je ne suis pas ressortie ici sur la pointe des pieds et en gambadant, non. Mais j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, mon corps avait retrouvé sa capacité de se guérir, quoi. Et je pensais vraiment que je serais abonnée aux médicaments. Ben, je ne le suis pas. Je les ai arrêtés.
Voilà un des témoignages de votre documentaire. Donc avec cette femme qui dit bien à quel point elle était esclave des médicaments, qu'elle a réussi ensuite donc à arrêter de les prendre suite à ce jeûne. Alors il faut bien préciser évidemment que tout ce qu'on dit, hein, ce sont d'abord des observations, que ce sont nullement des conseils adressés aux auditeurs. Il faut être extrêmement prudent, hein, parce que la pratique du jeûne, évidemment, ça c'est pas n'importe comment. Ça doit être encadré, comme c'est le cas d'ailleurs en Allemagne, hein, dans des hôpitaux publics. Alors là, pour l'instant,
aux cliniques privées, il y a des
cliniques privées, évidemment. Pour l'instant, en France, ça, Yvan Le Mao, c'est absolument inimaginable.
À ma connaissance, il n'y a pas d'endroit type clinique privée ou hôpital public, contrairement à l'Allemagne. En Allemagne, c'est remboursé par la Sécurité sociale.
Ouais.
Et évidemment, le jeûne se fait sous contrôle médical.
Ouais.
Il faut insister là-dessus.
Pourquoi ce tabou français alors ? Parce que c'est vrai que le jeûne jusqu'à maintenant était perçu comme une initiative de baba cool ésotérique. Les choses vont peut-être changer d'ailleurs avec la publication scientifique dont on va parler dans un instant. Mais comment vous interprétez cette perception très négative ?
Pour la même raison qu'il était extrêmement difficile de trouver des crédits pour faire de la recherche en France sur le jeûne. La mentalité n'est pas la même qu'en Allemagne ou vraiment, enfin, encore une fois, je répète, le fait que ce soit remboursé par la Sécurité sociale allemande montre bien que l'on a compris qu'il peut y avoir un bénéfice. Et,
ouais.
Et d'ailleurs, l'une de ces cliniques privées a été créée par un médecin qui était à l'origine, d'ailleurs, de ces cliniques privées et de ces hôpitaux publics, le docteur Boehringer, qui avait une maladie articulaire qu'il n'avait pas réussi à soigner. Et c'est en se soignant qu'il a eu l'idée d'ouvrir cette clinique.
Pardon,
peut-être souligner qu'en Allemagne, ils consomment beaucoup moins de médicaments qu'en France.
Oui.
Sur les 5 médicaments les plus prescrits, les Allemands consomment à peu près 40% de moins de médicaments que nous en France.
Puis ce qui est un peu troublant, c'est vrai, en France, à chaque fois qu'on pose la question à un nutritionniste, c'est toujours le même ou les mêmes, enfin, il y en a 2 ou 3 qui reviennent toujours, qui vendent leur régime, et à chaque fois, ils brandissent la menace d'un jeûne qui serait dangereux, mais jamais, jamais, on les interroge sur quelles études scientifiques ils se basent pour brandir les dangers du jeûne.
Christophe nous envoie ce message. Mes parents ont plus de 80 ans. Ils jeûnent 2 semaines tous les ans dans un centre dédié aux jeûnes en Allemagne. Ils se portent très bien et pour l'un a réchappé une intervention chirurgicale programmée sur les intestins il y a 10 ans. Bon, voilà un témoignage. En tout cas, c'est peut-être d'ailleurs dans cette clinique qu'on voit dans votre documentaire au bord du lac de Constance. Alors vous êtes allé aux États-Unis parce que là, il y a eu vraiment une étape supplémentaire avec Walter Longo, que vous avez rencontré. C'est un biologiste, il travaille à l'Université de Californie. Alors quel est son domaine de recherche exactement ? Racontez-nous comment il en est arrivé à
Alors
ses conclusions.
Lui vient justement de la restriction calorique et il étudie les mécanismes du vieillissement. Sa question, c'est comment on peut faire pour vieillir en meilleure santé et le plus longtemps possible. Donc lui, il savait, les travaux sont connus depuis les années 30, que donc, on l'a dit tout à l'heure, en restreignant l'apport calorique des souris, on les fait vivre plus longtemps et en meilleure santé. À partir de là, lui, il s'est lancé dans la restriction calorique extrême, le jeûne. Et il a eu l'idée de faire jeûner des souris. Et il s'est dit, il s'est posé la question, je vais les exposer, à quoi je peux les exposer qui pourrait être le plus toxique. Et il a pensé à la chimiothérapie, qui est quelque chose de très répandu. Et à partir de là, donc il a fait une étude très intéressante il y a 2 ans. Donc il a pris 2 groupes de souris atteintes de cancer. Dans le premier groupe a mangé normalement et le deuxième groupe a jeûné 48 heures. Et après, il a injecté des doses de chimiothérapie très très fortes aux 2 groupes de cancer avec cette question, est-ce qu'elles vont réagir différemment ? Et là, il nous a prêté les images, enfin, elles sont dans le film, et les résultats filmés sont sidérants. C'est-à-dire qu'on voit que 100% des souris qui ont jeûné ont survécu aux doses de chimiothérapie. 35% seulement de celles qui avaient mangé normalement ont survécu. Et celles qui ont survécu, on les voit, elles sont terrées dans leur cage.
Alors c'est ça, c'est assez impressionnant. On voit les 2 bacs, Yvan Le Mao, avec ses souris, donc les jeûnantes qui sont en parfaite forme, en tout cas qui ont l'air, qui bougent tout à fait normalement, qui courent.
Qui ne montrent pas les effets secondaires classiques de la chimiothérapie.
Et les souris donc, qui ont mangé normalement et qui ont eu la chimiothérapie sont effectivement terrées dans un coin.
Et les analyses montrent qu'en plus le cœur et le cerveau sont atteints. Donc à partir de là, il y a une publication scientifique. Tout de suite, la grande presse en est emparée. Les titres accrocheurs, le jeûne protégerait des effets secondaires de la chimio, ça a donné plein d'espoir. Mais attention, là, c'est pour ça, il faut être prudent, il s'agissait des souris. Mais quand même, à partir de cette publication-là, le Norris Hospital de Los Angeles a lancé un essai thérapeutique.
Alors, Yvan Le Mao, est-ce que c'est l'étude qu'on attendait justement pour avancer un peu plus sur ce terrain du jeûne ?
Elle va certainement être déterminante parce que dans le cas présent, le fait que le jeûne protège contre des doses très fortes de chimiothérapie ne va pas entraîner une opposition de toute l'industrie. Mmh. Donc on voit très bien l'intérêt qu'elle peut en trouver et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles Walter Longo, chose extraordinaire, vient de recevoir d'énormes financements pour poursuivre dans cette direction.
Oui, alors c'est ça qui est amusant, enfin amusant. En tout cas, c'est vrai qu'on voit la direction de son étude scientifique. Elle a été menée aussi pour ne pas heurter l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire en sorte que les deux soient compatibles, c'est-à-dire le jeûne d'un côté et la chimiothérapie de l'autre, pour qu'on puisse parler véritablement de son étude. Sinon, elle aurait probablement été enterrée à tout jamais.
Oui, je ne pense pas que ça a été sa motivation initiale. Sa motivation, ça a été de chercher, comme l'a dit Sylvie, quelque chose le plus toxique possible. Vous savez, là, c'est pour ça que nous, on a, même malgré les difficultés de financement, on a quand même continué. On a encore une publication sous presse actuellement sur le jeûne. Parce que le chercheur, il est motivé par ce qu'il trouve, par sa progression, au-delà des modes. C'est la mode qui fait le financement. Et ça peut changer du jour au lendemain. Vous savez, les grandes découvertes, ce n'est pas des découvertes qui étaient programmées par tout le monde.
Thierry de l'Estrade.
Oui, la motivation de Longo, c'était quand même d'essayer de... Lui, il s'intéresse au cancer parce que c'est une maladie liée souvent à l'âge.
Ouais.
Et la chimiothérapie, c'est d'essayer de protéger au départ. L'idée, c'est est-ce que le jeûne protège contre la chimiothérapie? C'est ça sa question de base.
Ouais.
Et il démontre que ça protège. Mais son raisonnement, il a dû aller plus loin parce que si le jeûne protège les cellules normales contre la chimiothérapie, est-ce que ça ne protège pas aussi les cellules cancéreuses contre la chimiothérapie? Donc il a dû poursuivre ses expériences parce que si le jeûne protège aussi les cellules cancéreuses, eh bien c'est une catastrophe.
Et ça, c'était l'objet d'une deuxième publication il y a 3 semaines, qui elle aussi fait beaucoup de bruit, parce que justement, il a mesuré l'activité génétique des cellules et il a montré que pour les cellules cancéreuses, le jeûne, c'est un cauchemar. Parce que la cellule cancéreuse, pour proliférer, elle a besoin de sucre, elle a besoin de facteurs de croissance. Et pendant le jeûne, il n'y en a plus.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très très mal.
Yvan Le Mao, comment on explique ce processus alors qui tout d'un coup permet à la cellule de se protéger du cancer? Est-ce que c'est ces fameuses ce capital ancestral dont vous parliez tout à l'heure qui rejaillit tout d'un coup?
Peut-être
qui
une mémoire de l'évolution, mais comme vient de dire Sylvie, les cellules cancéreuses ont besoin de glucose, ont besoin de facteurs pour se multiplier. Et alors évidemment, la question qui se pose à partir de là, c'est que va-t-il se passer lors de la réalimentation?
Et alors,
il y a tout un questionnement. Je crois qu'il est encore un peu trop tôt pour
le dire. On est au stade des essais thérapeutiques, mais c'est vrai que...
On est au stade des essais thérapeutiques. Walter Longo a eu, ce qui est tout à fait incroyable, aux États-Unis. L'administration, vous savez, est très, très tatillonne pour passer de la souris chez l'homme, très prudente, juste titre. Et il a eu, en un temps record, vu l'intérêt de ses résultats sur l'animal, les autorisations pour faire des études chez l'homme.
Donc là, ça a commencé sur l'humain.
Oui. Alors, il y a 3 essais thérapeutiques. Un qui est mené au Norris Cancer Hospital à Los Angeles, un à la clinique Mayo et un à l'université de Leiden en Hollande. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il nous a expliqué que quand il arrivait au National Cancer Institute, donc l'Institut National du Cancer américain, on souriait doucement, quoi. Enfin, parler de jeûne, en plus, on souriait dans le meilleur des cas où on lui disait attention, c'est extrêmement dangereux.
Ouais.
Alors, un malade du cancer, il est déjà affaibli, vous n'allez pas encore plus l'affaiblir en le privant de nourriture. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit sur la chimio. Et finalement, aujourd'hui, il est accueilli à bras ouverts parce que quand même, sur le front du cancer, on a besoin de bonnes nouvelles. Et celle-là, c'est quand même une thérapie simple à mettre en œuvre et qui s'adapte à beaucoup de cancers, apparemment. Mais on est, encore une fois, au stade des essais thérapeutiques. La phase 1 vient de se terminer à Los Angeles. Et les résultats vont être publiés au Congrès mondial de l'ASCO en juin 2012.
On va écouter un témoignage de votre documentaire avec une femme qui s'appelle Nora Quinn. Elle est juge du comté de Los Angeles, mais c'est à titre personnel qu'elle intervient dans ce documentaire puisque c'est en lisant un article du Los Angeles Times qui décrivait les travaux de Walter Longo qu'elle a pris la décision de jeûner. On venait de lui diagnostiquer un cancer du sein.
I J'ai eu de la chance. Ma cancérologue s'est montrée ouverte. Elle ne m'a pas vraiment encouragée. Elle m'a dit, si vous voulez jeûner, allez-y. Je ne pense pas que ça fera une quelconque différence, mais allez-y. Pour moi, il n'y a aucun doute que j'ai eu moins d'effets secondaires pendant mon traitement. J'ai été moins fatiguée. Et mes neurones ont été moins atteints que ceux de mes amis qui n'ont pas jeûné et qui sont passés par les mêmes cycles de chimiothérapie. Je n'ai aucun doute là-dessus.
Voilà, ce témoignage donc à découvrir également jeudi sur Arte. Quelques courriels, il nous reste 2 minutes si on peut y répondre rapidement. Isabelle dit ceci, je trouve incroyable que nous ne parlions que de notre découverte du jeûne en bon occidentaux qui savent tout, alors que les Indiens et les Asiatiques connaissent cela depuis des milliers d'années et le pratiquent. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Hein, dans beaucoup de cultures, on le pratique. Elsa nous dit ceci, je trouve le sujet d'aujourd'hui très intéressant. Je souhaiterais savoir si on peut jeûner si on n'a pas de problème de santé particulier et que l'on souhaite simplement continuer à vivre normalement.
Mais il y a des associations en France comme Jeûne et Randonnée où effectivement en prévention, on peut, donc il n'y a pas de suivi médical, mais on peut tout à fait jeûner.
Moi je l'ai fait parce que...
Alors c'est une question d'auditeur, est-ce que vos scientifiques et vos invités parlent de quelque chose qu'ils ont essayé? Alors oui, apparemment pour vous tous.
Alors oui, je l'ai fait poussé par... la directrice d'une des cliniques allemandes qui suivait nos travaux chez l'animal et qui, quand même, à force de me dire « vous devriez essayer », bien j'ai essayé. Et alors, ce qui m'a le plus étonné, c'est que je croyais que l'on devient complètement apathique, pas du tout. On a même envie de faire du sport. Les premiers jours sont un peu difficiles tout de même. Mais on est en pleine forme. En pleine forme, après ces premiers jours un peu difficiles. Et finalement, je me dis que quand vous avez un petit oiseau, comme un oiseau-mouche, qui traverse le golfe du Mexique, 1500 km avec 1,5 g de graisse, les migrateurs ont une dépense énorme, tout en jeûnant.
Vous parlez d'une sorte d'euphorie, d'ailleurs, dans les moments de ce jeûne.
Oui. Oui, oui, parce que le corps fabrique donc des corps cétoniques pour nourrir le cerveau. Mmh. Apparemment, ces corps cétoniques sont euphorisants pour le cerveau.
C'est ce qu'on dit.
Ouais. Oui, oui.
Combien de jours est-ce que vous avez jeûné?
Nous, avec Sylvie, on a pendant 4 mois avant la préparation du documentaire, on a jeûné un jour par semaine.
Un peu
comme les médecins.
Oui, j'ai fait une dizaine de jours.
On n'a pas encore fait la vraie cure, mais on y pense.
L'effet remarquable, c'est un sentiment de libération.
En tout cas, il faut suivre absolument les études scientifiques qui sont en cours pour avoir les résultats. Donc évidemment, ça va demander un petit peu de temps. On s'en fera l'écho. Je pense que la presse aussi, parce qu'il y a vraiment des perspectives extrêmement intéressante.
Il faut être très prudent. Cette dame que l'on a entendue tout à l'heure, elle a demandé à jeûner dès le début. Dès qu'elle a été informée, il est évident que si le patient, le sujet est complètement dénutri, les conditions sont différentes.
Voilà, il faut être très prudent et en parler à son médecin. Comme Longo insiste, il dit voilà, si l'oncologue, parce qu'il y a un cancérologue français qui a déjà réagi et qui a dit attention, mais parlez-en au médecin et montrez-leur les études.
En tout cas, c'est intéressant et il y a des choses effectivement à explorer. Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. C'est ce documentaire à voir jeudi soir, 22h35 sur Arte. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aux auditeurs pour les nombreuses questions. Dans un instant, ce sera Vincent Olivier avec la chronique de l'Express après Jack White et Love Interruption.
I want love to roll me over slowly, stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to
Walk right up and bite me. Grab a hold of me and fight me. Leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me.
Chronique de Vincent Olivier avec l'Express.
Vincent, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Cette semaine sur l'express.fr, un sujet sur les difficultés rencontrées au quotidien par les malades du cancer.
Oui, hein, car lorsqu'on ne parle de cancer dans les médias, c'est le plus souvent pour évoquer des progrès thérapeutiques, hein, de nouveaux médicaments par exemple. Alors en général, on interroge des médecins, parfois des scientifiques ou des chercheurs, mais beaucoup plus rarement les malades eux-mêmes. Or, ces malades ont des choses à dire et ils méritent d'être entendus, car ce sont eux les premiers concernés et surtout ce sont eux qui sont directement concernés justement par ces difficultés quotidiennes.
Et les interroger, ça n'avait jamais été vraiment fait auparavant ?
Alors, il se trouve effectivement que dans le cadre d'un plan cancer 2009-2013, il avait été prévu de créer un observatoire sociétal du cancer pour notamment justement faire entendre la voix des patients. Mais 3 ans plus tard, faute de financement de la part des pouvoirs publics, eh bien, la Ligue contre le cancer a décidé de créer cet observatoire sociétal toute seule. Et pour cela, elle a lancé une grande enquête, hein, ça s'appelle le DOPAS. DOPAS pour dispositif d'observation pour l'action sociale dans 16 départements. Plus de 1700 questionnaires ont ainsi été remplis. Alors, bien sûr, hein, cela n'a pas la valeur d'une enquête sociologique ni d'un panel représentatif, mais ce DOPAS est un outil d'observation au plus près du terrain qui permet, et c'est déjà énorme, de rendre compte des inégalités réelles qui sont subies par les malades du cancer.
Alors, en quoi les Français sont-ils inégaux face au cancer ?
Alors, il y a d'abord une inégalité géographique. Hein. Ainsi, en Midi-Pyrénées, le taux de mortalité par cancer chez les hommes est inférieur de 14% à la moyenne nationale, alors que dans le Nord, il est supérieur de 30%. Ça fait déjà une grosse différence. Mais à cette inégalité géographique vient s'ajouter une inégalité sociale. Pour les cancers de la gorge, par exemple, la mortalité est 10 fois plus forte dans les classes défavorisées. Alors cela s'explique par des différences en aval, notamment dans l'accès au dépistage et dans l'accès aux soins, mais aussi par des écarts en amont dans le mode de vie, comme la consommation de tabac ou d'alcool. Et enfin, en plus de ces inégalités géographiques et sociales, il y a des disparités spécifiques au monde du travail. On sait par exemple que les travailleurs qui sont exposés à des risques professionnels, eh bien ils ont 50% de risque supplémentaire d'avoir un cancer du poumon.
Alors que disent les malades justement dans cette enquête que vous évoquez ?
Eh bien, tous s'accordent à dire que le cancer est une maladie qui est paupérisante et cela à tous les niveaux. Hein. Car en plus de la lutte contre la maladie, les personnes doivent faire face à toute une série de combats auxquels elles ne sont pas du tout préparées. Des difficultés administratives, juridiques, mais surtout économiques, qui interagissent les unes avec les autres et que ne prennent pas en compte les établissements de soins qui, eux, se focalisent avant tout sur l'aspect strictement médical. Par exemple, un malade du cancer est théoriquement pris en charge à 100% au titre de l'ALD, l'affection de longue durée, mais cela ne couvre ni les dépassements d'honoraires des médecins, ni les prothèses, ni les franchises médicales de type forfait hospitalier, c'est dont on parlait justement il y a une quinzaine de jours.
Ça, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les autres malades. Hein.
Oui, Mathieu, mais la spécificité du cancer, c'est qu'il induit des besoins nouveaux, c'est-à-dire une aide à la vie quotidienne, des soins de support, des compléments alimentaires et bien d'autres choses encore. Or, ces prestations qui sont indispensables pour le patient, elles sont considérées par les organismes sociaux comme des soins de confort. D'ailleurs, l'enquête DOPAS de la Ligue contre le cancer nous montre bien, près d'1 malade sur 2 a modifié son mode de vie en raison de dépenses supplémentaires liées à son cancer. Les trois quarts de ces malades ont réduit leurs dépenses quotidiennes ou même ils ont carrément renoncé à des vacances.
Alors comment on explique ces difficultés alors que des mécanismes d'indemnisation existent,
hein ? En principe, c'est vrai Mathieu. Les malades bénéficient d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Mais dans la réalité, les choses sont plus difficiles. D'abord, parce que les salariés qui travaillent moins de 15 heures par semaine, et ce sont essentiellement des femmes, et bien ces salariés n'ont droit à aucune espèce d'indemnisation. Ensuite, parce que les dispositifs ne fonctionnent pas toujours correctement. Dans l'enquête d'OPAS, par exemple, plus d'une personne sur trois a rencontré des difficultés liées au versement de ses droits sociaux, comme des retards ou comme des périodes de carence. En fait, il y a donc pour les malades du cancer une espèce de double peine. C'est-à-dire qu'ils doivent à la fois se battre contre la tumeur, mais ils doivent aussi se battre contre le dysfonctionnement du système de santé. Et pour ça, ils ne sont pas du tout préparés sur les plans médicaux.
Voilà un article à découvrir donc sur l'express.fr. Merci Vincent.
Merci Mathieu.
À mardi.